Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je fais du financement immobilier. Quand je finance des fonds, quand un fonds achète une tour à la Défense, il y a un bail commercial en 3-6-9.
Il a été élu, alors pas homme du match, hein, le
super, most player.
Voilà, redis-le, comment tu dis
Most player, c'est ça.
T'as un club qui marche un peu mieux quand même dans le sens du football que le football demande.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
David Guzman est là ce soir, Elton Mokolo aussi, Walid Acharchour bien sûr, on est ensemble jusqu'à 22h, RMC Génération After. Finissons sur l'équipe de France, je voulais qu'on le traite également ensemble. David, tu me l'as proposé ce sujet aussi parce que on a tous eu l'interview du sélectionneur Didier Deschamps dans l'équipe, qui pour une fois, c'est vrai, donne quelques éléments, laisse un peu parler son cœur presque.
Très disert,
pas tant sur sa dernière année, mais en tout cas sur quelques contraintes qu'il rencontre depuis maintenant 13 ans qu'il est sélectionneur, et encore plus à l'approche de cette dernière Coupe du Monde qu'il va vivre. Bon, il dit, il est un petit peu chouiné, c'est vrai, mais il dit des choses vraies qui sont quasi incontestables, notamment sur le temps qu'il n'a pas pour mettre sa patte sur l'équipe de France. En clair, il explique « j'ai pas le temps de faire ce que j'aimerais faire en bleu ». Ça peut être un débat aussi, hein. Qu'est-ce qu'il aimerait faire, on le saura jamais, parce qu'on a vu ce qu'il pouvait, ce qu'il voulait faire en club. On n'a pas forcément adoré ce qu'il a proposé en termes de spectacle notamment et d'esthétisme. Il va plus loin également cette année-là, particulière bien sûr, puisque la finale de Ligue des Champions, il le rappelle, se jouera le 2 juin prochain. Il est possible qu'il ait quelques éléments de son équipe de France qui la jouent, cette finale. Et la Coupe du Monde démarre le 11 juin. Début du mondial le 11 juin, ils doivent arriver au plus tard 5 jours avant la Coupe du Monde. Donc c'est très compliqué pour lui de mettre en place ce qu'il adore faire. Ces 15 jours, voire 3 semaines parfois, pour créer une ambiance de groupe, préparer une équipe commando, comme il aime le raconter parfois. Donc il se plaint un peu de ça finalement. Mais toi David, tu penses notamment que peut-être que ça peut lui servir, bien au contraire, par rapport aux autres sélections et aux autres sélectionneurs qui, eux, cherchent à construire une vraie identité.
À être un peu plus protagoniste, oui. Enfin, en tout cas, au Deschamps historique, si on revient en mode tournoi, au Deschamps en mode tournoi, avec un joueur d'équilibre, que ce soit Rabiot, que ce soit Tolisso, que ce soit Matuidi, oui, clairement, ça peut lui servir. Il y a des équipes nationales, notamment les principaux concurrents, qui sont très ambitieux. Moi, dans les conditions d'organisation, c'est-à-dire avec des décalages horaires, avec des conditions météorologiques extrêmes, on l'a vu avec des matchs pendant le championnat du monde des clubs qui ont été reportés à cause d'orages. Oui, les équipes protagonistes, les équipes qui veulent presser, je pense à l'Allemagne de Nagelsmann, je pense à l'interview de bienvenue, de présentation de Thomas Tuchel avec les Anglais, qui dit que lui, il n'a pas été pris pour être un micro-manager, mais il veut vraiment casser les codes du football de sélection et avoir un pressing agressif, un pressing, avoir un football opportuniste.
Lui découvre le football de sélection.
Et, exactement.
Peut-être qu'il va déchanter.
Et moi, je me dis, les sélections qui peuvent au final le plus en sortir et bénéficier de ce manque de préparation, de ces conditions météorologiques qu'on peut penser extrêmes, de ce format avec énormément de voyages, énormément de contingences logistiques, avec du décalage horaire, c'est justement les équipes type ou traditionnel, en tout cas, de Didier Deschamps. Et après, il y a aussi l'Espagne qu'on met à part, qui, elle, de toute façon, peut geler une rencontre avec sa possession défensive et faire courir à l'adversaire. Mais oui, après, j'ouvre le débat, mais le Didier Deschamps classique, le Didier Deschamps old school, il a vraiment une possibilité de tirer son épingle du jeu de par le format de cette compétition et le manque de préparation.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, justement ?
Après, pour moi, il y a une part beaucoup plus aléatoire aujourd'hui par rapport à ce manque de préparation. Parce que moi je suis totalement d'accord avec Didier Deschamps, mais en même temps je reproche une chose, c'est qu'il va pas au bout de ses idées. Moi je pense qu'il aurait pu être à la pointe du combat, parce que moi Nico, moi je suis un enfant du football de sélection, il y a rien de plus grand et de plus beau.
Ça veut dire quoi ça? Tu crois qu'on est quoi nous?
Non mais parce que lui je sais que c'est
Coupe du Monde.
Parce que je sais que lui c'est football de club.
Lui c'est qui?
Walid Acharchour.
Non, c'est lui avec le doigt pointé.
Non, c'est lui. Non, comme ça.
Mais plus les interlocuteurs, en fait.
Exactement. Non, mais je parlais.
Il y a une dimension, Elton. C'est
ah oui, t'as vu ça.
Et non, mais parce
il a acheté 2-3 vestes à Zara à 47 euros.
Ah, pas Zara.
Quel mépris.
C'est pas Zara déjà.
C'est quoi, Massimo Dutti? C'est quoi?
Non, c'est pas Massimo.
C'est quoi? C'est quoi?
Je sais pas du tout.
Ah, d'accord. C'est des créateurs?
Des créateurs de niche.
Ah, d'accord.
Sur mesure.
C'est des collections capsules.
calcul.
Dans le troisième.
C'est deux, trois comptes même. Instagram que tu suis qui te.
Exactement.
D'accord, non, c'est pas comme ça.
Non, si, si, quand
même. Si, si, si. Des journalistes ou pas?
Comment ça?
T'as pas de carte de presse, on est d'accord?
J'ai pas de carte de presse.
Alors tu peux croquer. Vas-y, tu peux continuer.
Et non, mais pour revenir sur le football de sélection, Didier Deschamps, il va pas au bout de la chose parce qu'il aurait pu être à pointe du combat et dénoncer ce qui est pour moi, on maltraite le football de sélection. Parce que là, en fait, on est sur un côté paradoxal où on rajoute des pays, des sélections pour la Coupe du Monde et en même temps, on leur accorde moins de temps. Donc forcément, le football de sélection est impacté. Et au mois de juin, on explique quoi ? Fait ouais, c'est nul, ouais, les équipes ne sont pas prêtes et tout. Et Didier Deschamps, il le détaille bien. Mais à un moment donné, il aurait pu se dire, avec la légitimité qu'il a, il aurait pu être à pointe du combat. Et moi, c'est ce que je reprends.
Mais lui, il renvoie sur les joueurs. Là, lui, il a renvoyé clairement sur les joueurs. Il a dit, c'est aux joueurs de se mobiliser. C'est aux joueurs, ça, au syndicat des joueurs.
Ouais, mais en fait, il s'en lave les mains. C'est lui aussi, là. Il a
eu peur dans 6 mois.
Après, moi, je trouve qu'il y a quand même une grosse hypocrisie. Et Deschamps nous a quand même, à chaque fois, à chaque compétition, il nous l'a pas expliqué. Mais en tout cas, il nous l'a montré qu'en fait, c'était la compétition du jour J, que pendant la compétition, tu devais te révéler en tant qu'équipe, mais presque. On se rappelle des premiers matchs contre l'Australie, à la Coupe du Monde 2018, on va pas tous les faire.
Oui, change ton fusil d'épaule, d'ailleurs.
Exactement. Et donc, quand on essayait d'avoir de l'exigence sur le travail préparatoire, sur les qualifications, sur les matchs amicaux, sur la Ligue des Nations, on nous disait, on nous rabâchait à chaque fois que Deschamps était une bête de compétition, que ça se passait dans les compétitions et qu'il fallait faire fi de tout ça. Donc aujourd'hui, moi je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, Nico, en disant c'est peut-être même une chance pour Didier Deschamps parce que il arrive. Parce que là, on parle de l'équipe de France, mais toutes les sélections vont être impactées par ce manque de préparation.
Même Ancelotti, pour moi, Ancelotti, c'est exactement le son Brésil, et c'est une chance pour son Brésil.
Et donc, ils vont arriver à un moment donné en se disant, bah, on est dans la même galère, tous dans la même galère, et ça va être le meilleur, celui qui s'adapte le mieux. Ça va aussi appartenir aux joueurs. Cette compétition, la fraîcheur. On parle du football des sélections, mais aujourd'hui, le football de club est aussi détruit. Hein, quand on voit la Coupe du Monde,
football de, pour moi, c'est ma théorie. Je reprends mon souffle. Le football de club a vampirisé le football de sélection.
Très bien, mais le football de club, on fait semaine après semaine en disant la Coupe du Monde des clubs, etc., etc. La Ligue des Champions a 7 matchs pour la gagner.
On aime tous le nouveau format.
Le nouveau format, de la Ligue avec 8 matchs et donc 2 matchs supplémentaires.
Mais ça,
l'histoire des 16e de finale.
Du barrage.
Du barrage. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le football, quoi. C'est le football global.
T'as des mecs qui vont jouer la finale des Champions. Qui joueront en Coupe du Monde 8-9 jours après.
Et ça, on l'a accepté.
C'est incroyable quand même. Il faut mesurer ça. On va pas aménager les calendriers pour ces joueurs-là, bien sûr. Ça, c'était pas un tirage au sort.
Mais il y a aussi.
Mais t'as peut-être. Imagine le PSG retourne en finale des champions. T'as tous les joueurs qui vont disputer un match.
Il y a aussi des clubs aujourd'hui.
Une grosse semaine avant de lancer leur Coupe du Monde.
Il y a aussi des clubs et des joueurs dans les clubs qui ont fait Coupe du Monde des clubs et qui viennent de faire une Super Coupe d'Europe et des matchs de championnat qui vont devoir faire
aujourd'hui deux ans d'affilée.
Un match contre l'Ukraine et un match contre,
l'Islande.
Contre l'Islande. Donc tu peux faire aussi l'inverse.
C'est-à-dire
que.
Ah non.
Vas-y, explique.
Je vais expliquer rapidement. C'est-à-dire qu'avec la charge de travail des joueurs dans les clubs, où on leur a rajouté des compétitions comme la Coupe du Monde des clubs, avec combien de matchs? La Coupe du Monde des clubs, c'est 7 matchs en plus.
Mm-hmm.
D'accord? Avec l'enchaînement des sélections, combien de fois on a fait les débats l'an dernier en disant il y a 3 rassemblements en l'espace de 3 mois? Ça aussi, ça impacte le niveau des clubs et le niveau des joueurs dans les clubs.
Un niveau sensible, beaucoup plus sensible pour moi. Parce qu'à côté de ça, dans le football de section,
l'année dernière, on a eu une trêve en août, une trêve en septembre, une trêve en octobre, la trêve de mars qui arrive quoi, une semaine avant des échéances très importantes en Ligue des Champions. On va pas m'expliquer que ces joueurs-là ne sont pas aussi impactés dans la réalité des clubs.
Je vais t'expliquer. Là, il y a une aberration. Ça veut dire que là, on est déjà à 4 rassemblements de la Coupe du Monde et qu'avant traditionnellement, on avait 2 ans pour faire les qualifications de Coupe du Monde et là on a 6 mois.
Il sert à rien, quoi qu'il arrive.
On est d'accord. Mais pour revenir en fait au sujet initial, moi je trouve que avec nos individualités, cette Coupe du Monde, ça va être une Coupe du Monde d'individualité. Je ne vois pas, à part l'Espagne qui est déjà très établie, je ne vois pas comment ça peut être en fait une Coupe du Monde de collectif dans ces conditions. Et quelle est la nation qui a bénéficié le plus d'individualité? ça reste la France, ça reste l'Espagne, mais
l'Allemagne, jeu.
Mais même pas l'Allemagne, l'Angleterre, mais le président Ancelotti a vraiment, moi je pense, une
carte. Mais quand Hamilton dit que c'est un enfant du football de sélection et de ces compétitions-là, mais depuis la nuit des temps, c'est quoi? C'est que c'est un football de collectif, le football de sélection?
Non, mais
ça dépend comment.
Ah non, mais ça a toujours été. Quand on était enfant, quand on était adolescent, c'était les individualités qui te faisaient gagner, et qu'encore une fois,
sauf certains cas comme l'Espagne.
Non, c'est l'Espagne,
le club qui a permis un football de sélection.
L'Allemagne 2014 et l'Espagne sont des anomalies.
Mm-hmm. Sont des exceptions.
Bah oui,
sont
des exceptions.
Donc là, on est d'accord, on est en train de dire et de justifier la raison pour laquelle Elton Deschamps propose pas quelque chose de plus alléchant en équipe de France.
Moi, je pense qu'il y a une hypocrisie parce que Didier Deschamps nous a toujours rabâché qu'en gros, de toute façon, même avant, il y avait pas le temps. Même quand il y avait plus de temps, il y avait pas assez de temps.
On dirait Thierry Henry, j'adore.
Non, mais surtout,
ce débat sur le temps
Les gars, historiquement, la seule fois où Didier Deschamps a essayé d'être un peu plus fantaisiste, de faire l'effort de reprendre Benzema, d'aligner plus de joueurs offensifs, ça s'est terminé en fiasco, en fait. Même si le contenu du match est bon, c'est des circonstances incroyables, mais ça s'est terminé en fiasco contre la Suisse. Donc, ça valide pas du tout son parti pris d'être avant tout pragmatique.
Non, mais moi, j'ai vu des compétitions de l'équipe de France où il y avait un mois à Tigne. Oui, il y avait une préparation, des préparations de dingue. Dans le jeu, on n'était pas super, les gars.
C'était un choix aussi. C'est un choix, Aimé Jacquet, Roger Le Maire, qui voulait un football pragmatique, efficace, point barre.
Très bien.
Mais Deschamps en est l'enfant.
Non, mais Walid, il te parle pas de l'esthétique, il te parle de l'aspect compétitif. C'est de ça dont il est question.
L'aspect compétitif.
Voilà les amis pour l'équipe de France, rendez-vous demain soir sera sur RMC évidemment, alors que Liechtenstein vient d'égaliser face à la Belgique.
Non, la Belgique
2-0, pardon, Jordi Garcia.
La Belgique vient de marquer.
Qui applaudit autant pour moi, 2-0 pour la Belgique sur le terrain du Liechtenstein. 1-0 pour la Tunisie, tiens, face au Liberia, la Tunisie qui va sûrement aller chercher assez rapidement sa qualif pour le mondial l'été prochain. Alors, vous écoutez RMC 21h13 avec Elton, Walid et David, Génération After. Parlons de l'Olympique de Marseille. À présent, on va se poser et étudier la stratégie Mercato de l'OM depuis 5 ans, profiter de la trêve internationale pour prendre ce temps-là. Depuis 5 ans, donc depuis l'arrivée de Pablo Longoria en juillet 2020, d'abord en tant que directeur général délégué de l'OM, avant de devenir président quelques mois plus tard. On nous avait vendu cet été une nouvelle stabilité. C'est pas le cas. Cet été, c'est 12 départs, 12 arrivées. Les chiffres que ont publié la Provence, donc de la Provence hier, sont assez édifiants. Depuis son arrivée en 2020, 172 mouvements à l'OM, arrivée et départ. David, toi, tu as bossé sur l'activité de Longoria en tant que président et recruteur
du numéro 1
de l'Olympique de Marseille.
Ah non, mais là, pour le coup, je me suis vraiment préparé parce qu'en fait, je voulais être précis. Je suis pas d'accord avec certaines méthodologies qui ont été utilisées. Donc,
Il a bossé. D'abord, un mot sur cette fameuse stabilité que beaucoup ici, y compris à Marseille, réclament enfin, espéraient enfin cet été. Est-ce que vous avez le sentiment que l'OM, finalement, c'est dans son ADN, encore plus sous Longoria, ne peut pas, n'a pas d'environnement qui lui permet d'avoir un effectif stable. Walid, tu veux commencer là-dessus?
Non, moi, je.
Possible
je
ou impossible?
Je me fais plus d'illusions là-dessus. C'est que je pense que quand tu bosses à l'Olympique de Marseille, quand tu dois prendre en compte le contexte marseillais, c'est beaucoup trop compliqué d'être stable. Coach compris. Alors là, aujourd'hui, tu as une deuxième année sous De Zerbi, mais tu sais très bien que pour De Zerbi, si ça se passe mal dans les prochains résultats, la question va se poser très rapidement sur l'avenir de De Zerbi, parce que
ça,
aujourd'hui,
c'est pour les coachs,
hein, pour les coachs. Oui. Et là, on va amener sur les joueurs. Choses, mais là, je veux parler des, parce que sur les coachs, je sais plus qui disait ça dans l'émission hier ou avant-hier, mais je crois qu'il y a que Garcia qui a fait deux ans plein.
Rudy Garcia, ouais.
À l'Olympique de Marseille sur les dernières années.
Ouais, c'est un an et demi, c'est ça.
Sur les dernières années, mais deux ans plein. Donc ça, c'est pour les coachs, mais pour revenir sur les joueurs.
Sinon, avant, faut remonter à Deschamps.
Moi, ce qui me dérange un petit peu sur l'hypocrisie, on parlait d'hypocrisie tout à l'heure avec Didier Deschamps, sur ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille en ce moment. Il y a un gros débat, c'est sur la stabilité et le nombre de mouvements. Ok, très bien. C'est vrai que les dirigeants nous avaient vendu cette stabilité. Pendant tout l'été, on a parlé de colonne vertébrale qui était restée à l'Olympique de Marseille, avec De Zerbi déjà qui faisait sa deuxième année, Rulli, Balerdi, Højbjerg, Greenwood, Rabiot. Rabiot est parti pour les raisons qu'on connaît.
Ou qu'on connaît pas d'ailleurs.
Mais il est parti. Ça faisait partie de ta colonne vertébrale et c'est une vraie perte sportive qui n'était pas, j'imagine, voulu à la base, mais globalement, les joueurs que je viens de citer sont restés. Maintenant, sur l'histoire des 11 mouvements, des 11 arrivées, des 12 départs, quand on regarde les départs quand même,
ceux qui comptaient véritablement dans mon esprit, parce que je parle pour moi, hein, je parle, c'est mon opinion, c'est Rongier et Rabiot. Rongier pour des raisons contractuelles, avec le un an de la fin de son contrat, et Rabiot pour les raisons qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Et derrière, tu as Quentin Merlin qui était remplaçant sur la fin de saison, qui est parti à Rennes. Mais sinon, il y a Luis Enrique avec, je pense, tout le monde a expliqué sur ce plateau et tous les observateurs que c'était une vente inespérée de le vendre ben 25
moi,
millions d'euros.
C'est la meilleure depuis 5 ans.
Exactement.
Et quand je dis c'est presque survendu, tu m'as dit, Nico, n'exagère pas, Luis Enrique.
Alors, c'était là.
Alors moi, il m'est tombé dessus ce jour-là.
Nico, je sais pas, à chaque fois,
tu dis, on se parle dans 6 mois.
À chaque fois, tu veux reparler des émissions qu'il y a 3 mois.
Non, mais c'est important.
Tu veux, on peut refaire. Le débat parce qu'après on sort d'émission, tu dis on ralentit l'émission. Donc si tu veux,
alors,
on peut...
avant s'il te plaît. Ouais, d'accord. J'ai fait mon point.
Voilà,
après 3 secondes.
Mais sur Luis Enrique, j'ai juste dit que c'est pas un kidam et que c'est un bon joueur. Et quand je vois le marché des transferts aujourd'hui, oui c'est très bien vendu, mais il y a pas mal de cas similaires. Bon bref, passons. Luis Enrique était titulaire, mais tout le monde avait dit que c'était une belle vente et qu'il fallait le faire. Ensuite, sur l'histoire de l'instabilité de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a plus d'argent que les concurrents. En termes de budget, etc. Mais l'Olympique de Marseille, par rapport à ce qu'ils veulent faire en termes d'effectifs et essayer saison après saison d'upgrader en termes de qualité, est obligé d'avoir cette instabilité. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien, moi c'est mon avis, si on regarde bien, il y a beaucoup d'options d'achat parce que tu es obligé de lisser sur les prochaines années. Mais ces options d'achat, notamment, si les performances ne sont pas bonnes, tu peux avoir un mouvement perpétuel qui sert ou non à la performance sportive. Moi, je pense que ça dessert plutôt que ça sert. Mais est-ce que ce n'est pas finalement, comment dire, une obligation de projet? Parce que entre la pression, entre l'Olympique de Marseille qui saison après saison doit essayer de passer un cap. Je prends des exemples. Aujourd'hui, défensivement, tout l'an dernier, on avait expliqué, on avait dit, c'est un chantier, il faut se renforcer numériquement et qualitativement. Bon, aujourd'hui, tu as eu combien de mouvements derrière? T'as eu Emerson Palmieri, tu as eu Medina, tu as eu Aguerd, tu as eu Pavard. C'est dans le bon sens.
Egan Riley aussi.
Egan Riley, c'est dans le bon sens. C'est aujourd'hui, ces mouvements, l'OM en a besoin. Donc aujourd'hui, on dit mouvement, pas mouvement. Qu'est-ce qu'on fait sur les 5 mouvements qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille? Il fallait rester avec Kondogbia, avec Cornelius, avec moi. Ça me dérange pas d'avoir des mouvements si c'est pour véritablement avoir une plus-value dans ton effectif. Et les joueurs qui viennent d'arriver, est-ce que si l'an prochain, un Naïef Aguerd qui a 29 ans a des possibilités de partir, Balerdi qui a une offre à 40 millions d'euros ou 30 millions d'euros, qui va partir avec la vitrine de la Ligue des Champions, il partira et ça fera encore de l'instabilité et du mouvement. Un Pavard, option d'achat. Bon, je trouve que le deal, il est plutôt bon de Benjamin Pavard. Ah, option d'achat non obligatoire. Si dans un an, le mec, il a rendu service à l'Olympique de Marseille et qu'il part derrière vers d'autres horizons, mais il aura servi à l'Olympique de Marseille à aller chercher ce podium. Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier que dans ces mouvements-là...
C'est un peu court-termiste quand même, tout ça.
Non, comment ?
C'est pas un peu court-termiste, justement.
Mais je pense...
D'avoir un mec sur deux, à minima deux, voire trois saisons.
Je pense qu'il va falloir ne plus être naïf et que si le discours des dirigeants et celui-là, il faudra plus y croire, c'est qu'à l'Olympique de Marseille, tu dois faire un effectif à l'instant T pour faire des résultats. Et la priorité, c'est de continuer à faire la Ligue des Champions pour essayer d'assainir les finances et de pouvoir faire des cycles. Mais à l'instant T, tu ne peux pas, c'est-à-dire que demain, tu ne peux pas créer de la valeur. C'est trop difficile à l'Olympique de Marseille. Ismaël Koné, si au bout d'un an, t'as acheté 15 millions d'euros, Ismaël Koné, il fait pas l'affaire, tu t'es trompé, malheureusement, tu dois aller chercher quelqu'un d'autre et un joueur peut-être meilleur. Comme avec Eli Wahi, comme avec plein d'autres exemples. Et moi, je pense que je ne me ferai plus duper sur l'histoire de la stabilité parce que l'Olympique de Marseille ne peut pas le faire.
Bon, David, t'as bossé aujourd'hui sur le bilan 5 ans mercato de Longoria. Déjà, tu le diras juste après la pause, d'accord ?
Okay.
On fait une pause et dans un instant, les chiffres. Il y a du boulot, il y en a un qui a préparé l'émission ici, c'est David Glezman. Dans un instant, Joris sera avec nous également au 32-16 qui voudrait parler de ce mercato marseillais. Tiens, un petit point, un score. L'Espagne mène 2-0 désormais face à la Bulgarie. Sinon, on a également les Pays-Bas qui mène 1-0 ce soir face à la Pologne. Et puis, sachez que la Belgique mène toujours 1-0 finalement face au Liechtenstein. La suite de Génération Inter, dans un instant, on parle de l'Olympique de Marseille avec vous, au 32-16, supporters de l'OM. On parle de la stabilité ou instabilité. Est-ce une fatalité à Marseille? Reste avec nous, RMC, 21h21.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Walid Acharchour, Elton Mokolo et David Glusman. L'After sera là, bien sûr, à partir de 22h ce soir, avec Jimmy Brown, Daniel Riolo et Kevin Diaz, autour de Gilbert Bribois.
Alors, juste pour terminer, Nicolas.
On parlait de Marseille, évidemment, de l'instabilité chronique à Marseille. Pour toi, c'est une fatalité, il faut l'accepter maintenant.
Exactement.
Et dire à monsieur Longoria d'arrêter de faire des promesses.
D'arrêter de nous vendre ça. Et juste pour terminer, avant de laisser le brillant David Glusman là-dessus, c'est que pour d'autres clubs l'assument. Notamment Lille a fait beaucoup de mouvements cet été par rapport à un contexte financier très compliqué. Il faut aussi peut-être expliquer à l'Olympique de Marseille qu'ils ne peuvent pas tout faire et que pour essayer d'upgrader une équipe année après année par rapport aux ambitions de l'Olympique de Marseille, eh ben, il doit avoir des sorties avec des joueurs que tu dois sortir pour récupérer de l'oseille et des rentrées, et que sur la vision à long terme pour essayer de développer des jeunes joueurs, ben, Marseille n'est pas l'endroit adéquat. Moi, je pense qu'il faut se faire une raison là-dessus.
Mais ce que tu dis là est valable, est valable pour quasiment tous les clubs.
Oui,
de Ligue 1,
tous les clubs.
PSG, dès lors que tu as une stabilité financière,
le contexte,
tu peux pas ne pas spéculer.
Franchement, le contexte, je comprends que le contexte, il est très spécial à Marseille. N'importe qui est allé à l'Orange Vélodrome, n'importe qui s'est promené boulevard Michelet avant une rencontre, te dit que c'est une ambiance complètement électrique qui peut inhiber. Oui, le contexte est spécial. Mais moi, cette semaine, il y a deux informations, ou plutôt deux débats qui m'ont marqué. Le premier débat, c'est la critique, notamment d'Eric Chesnaud, sur le turnover de l'OM. Et je vais pas paraphraser, et je vais accélérer, je vais pas paraphraser Walid. Moi, je trouve que l'équipe, elle est plus forte que l'année dernière. Donc moi, ce turnover, ce nombre de transferts, tant qu'il augmente la qualité de l'équipe, j'ai aucun problème avec ça. Et il y a une autre information qui est sortie, qui a été d'ailleurs savamment relayée par des comptes de supporters sur les réseaux, qui, moi, m'a interpellé. C'est le record de valorisation de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Alors là, ce record de valorisation, l'effectif de l'Olympique de Marseille atteindrait 402 millions d'euros. Donc c'est plus 40% par rapport à la valeur de l'effectif au moment où Pablo Longoria est arrivé aux affaires. Moi, je me suis dit, mais attends, enfin, moi, j'ai toujours eu, et j'ai fait plusieurs émissions avec Elton et Wally, j'ai toujours parlé de ce plafond Michi, pardon, et je me suis toujours dit, mais attendez, là, on est en train de relayer l'information, c'est basé sur Transfermarkt, ce qui valorise, par exemple, O'Reilly, qui est pas encore contracté avec l'Olympique de Marseille, mais qui valorise Greenwood à 40 millions, donc la méthode est discutable, mais c'est la seule base de comparaison qu'on ait. Et je me suis dit, mais attends, en fait, moi, si je suis actionnaire de l'Olympique de Marseille, je suis Franck McCourt. Je lis cette information, je me dis, mais là, mon effectif atteint un record de valorisation. Et moi, j'ai dépensé 700 millions de dollars, il le répète, à envie, dès qu'il y a une offre potentiellement rivale, en disant, mais moi, j'ai dépensé 700 millions de dollars, je suis attaché au club, j'ai dépensé 700 millions de dollars. Sur les trois derniers exercices comptables, donc connus, depuis 2023-2024, l'OM perd 80 millions d'euros. J'ai une balance de transfert négative sous Pablo Longoria de plus 170 millions d'euros. Et de l'autre côté, j'ai...
Tu parles des 5 ans là ?
Sur 5 ans, il y a moins 78 millions de balance de transfert. Et donc, de l'autre côté, moi, on me demande toujours plus en fin d'année, et on n'a toujours pas battu le record de transfert que de Michy Batshuayi à Chelsea, qui est de 39 millions, et qui date... Il est quand même là depuis 9 ans, McCourt, et qui date de l'été avant mon arrivée. Je me dis, il y a un problème. C'est-à-dire que le trading haute fréquence, moi, je le comprends. Mais je le comprends quand il crée de la valeur. C'est-à-dire que là, t'as énormément, et je vais vous le démontrer en chiffres, t'as énormément d'arrivées de départ pour, au final, gagner très peu. Remplir ses objectifs sportivement, par rapport à la masse salariale, par rapport à la dépense, sans surperformer, mais c'est du trading haute fréquence pour, c'est souvent du rattrapage d'erreurs, du limitage de casse.
Et donc, ça c'est vrai ça.
Et ouais. Donc moi j'ai choisi une autre méthodologie parce que je trouvais, j'ai pas envie de critiquer nos collègues journalistes, mais je trouvais que c'était pas très honnête de comptabiliser tous les mouvements.
Lesquels?
Moi, j'ai
les confirmations de prêt, quoi.
Moi, j'ai comptabilisé dans ma méthodologie. J'ai calculé toutes les plus-values sur tous les joueurs qui ont été recrutés sous Pablo Longoria et vendus sous Pablo Longoria. Donc, en fait, tous les mouvements sont attribuables à Pablo Longoria et à ses équipes.
Non, mais tu voulais répondre à quel chiffre, à quel
Non, il y a eu des chiffres de la Provence que j'ai pas du tout envie.
Contre quatre fois Guendouzi,
de remettre en cause leur professionnalisme.
Le vrai chiffre, c'est 145. Hein,
mais d'achat. Il y a 36 joueurs qui ont été achetés et revendus sous la présidence
de Pablo Longoria.
36.
Qui ont été achetés et revendus. Il y a des joueurs qui ont été prêtés, qui ont été renvoyés en prêt. Il y a des joueurs qui ont été achetés, qui n'ont pas encore été revendus. Il y a des joueurs qui ont été achetés et prêtés. Mais il y a 36 joueurs
aussi,
qui ont été achetés et vendus. Les joueurs qui sont arrivés libres et qui sont repartis libres ou revendus, je les ai inclus. Et même dans un objectif de sincérité, j'ai comptabilisé les joueurs du centre de formation qui a été vendu par Pablo Longoria, par exemple Perrin, par exemple Lopez, parce que je me suis dit qu'il avait ses, sous sa, son mandat que ces joueurs avaient été valorisés.
Alors, des chiffres.
Et ça nous donne quoi ? En fait, c'est un trading haute fréquence à somme quasi nulle. C'est d'une correction au détriment de la création de valeur. Sur 36 joueurs, il y a déjà 18 joueurs qui ont passé une saison ou moins au club. Et il y a donc ça fait 50% des joueurs. Il y a 9 joueurs qui ont passé 2 saisons ou plus et 9 joueurs qui ont passé entre une saison et 2 saisons au club. Et à somme nulle, pourquoi ? C'est-à-dire que le total des plus-values sur tous ces joueurs, c'est 15 millions d'euros. Et donc l'OM a gagné 15 millions d'euros sur tous les joueurs qui sont arrivés partis sous Pablo Longoria. Et la plus-value moyenne, c'est 400 000 euros. Il y a eu 17 joueurs sur lesquels le club a fait une plus-value. La plus-value moyenne, elle est de 4 millions d'euros. Il n'y a eu que 4 plus-values à plus de 5 millions d'euros. Donc des vrais bons coups de mercato, il n'y en a eu que 4. Et idem les moins-values, il n'y a eu que 4 moins-values supérieures à 5 millions d'euros. Et au final, il n'y a pas vraiment eu d'excellentes ventes. La plus grosse plus-value, c'est Enrique, 15 millions d'euros. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une super vente. Et la plus grosse moins-value, c'est Vitinha. Donc, qui n'a pas été l'accident sportif. C'est une moins-value de 13 millions.
13 millions,
au final. Donc, en fait, le souci, c'est pas forcément d'avoir perdu de l'argent, c'est de ne pas en avoir gagné. Et de ne pas en avoir gagné, pourquoi ? Et de ne pas en avoir gagné pour avoir minimisé l'apport de l'actionnaire, parce que, au final, l'OM, en cumulé, perd de l'argent tous les ans. Et c'est l'actionnaire, justement, à chaque fois qu'il doit remettre au pot. Et cet actionnaire, c'est une personne physique. Donc, c'est une personne physique, donc tu es limité aussi par ses capacités.
Mais tu prends tout le mandat de Longoria et pas le nouveau cycle avec De Zerbi. Parce qu'en fait, sur les mouvements, ça aussi, il faut aussi se placer là-dessus. C'est est-ce qu'on démarre, est-ce qu'on parle du nouveau cycle ou de ce qui s'est passé aussi avant ?
On englobe tout.
Par rapport au mouvement, est-ce que tu as comparé par rapport aux autres clubs de
Ligue 1 ?
Est-ce que tu étais. Est-ce qu'en termes de mouvement, par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à d'autres clubs, par exemple, est-ce qu'ils font beaucoup plus de mouvements
C'est pas sur le nombre de mouvements, c'est sur justement ce plafond Michy qui, moi, m'ennuie. Quand t'investis autant, c'est anormal que ça fasse quasiment 10 ans que ta plus grosse vente, ce soit 39 millions d'euros. Dans le même temps, cette vente de Michy, c'est la 36e vente la plus importante de l'histoire de la Ligue 1. Dans le même temps, Monaco a vendu 11 joueurs plus chers. Le PSG a vendu 5 joueurs plus chers. Lille 6, Lyon 7, Bordeaux a vendu Malcolm.
Donc ils se trompent beaucoup trop ?
Non, ils se trompent pas trop, mais ils corrigent trop vite. Ils se complaisent dans une urgence financière qui font qu'ils corrigent trop vite.
Mais c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est un gros souci sur le manque de stabilité. Mais la question du soir, c'est est-ce qu'à l'Olympique de Marseille, tu peux laisser le temps
pour moi,
aux joueurs ?
Parce que
quand tu regardes ce qu'a voulu faire Mehdi Benatia l'année dernière, Lilian Brassier, échec. Eli Wahi, échec.
Tous les
Ismaël Koné, échec. Jonathan Rowe, échec. Je parle de sportivement. Maintenant, ils sont retombés sur leurs pattes. Ismaël Koné va être vendu entre 10 et 14 millions à Sassuolo, mm-hmm. option d'achat. Eli Wahi, ils ont limité la casse. Ils ont même plus que limité la casse. Ils l'ont revendu 26 ou 27. Bref, je ne vais pas toutes les énoncer. Mais est-ce que, quand tu prends ces quatre joueurs-là, jeunes, 22, 23 ans, est-ce que tu peux leur laisser le temps de s'acclimater à l'Olympique de Marseille ? Est-ce que Jonathan Rowe, à l'Olympique de Marseille, tu peux lui donner 3 ans par rapport à l'exigence et à la pression qu'il y a à l'Olympique de Marseille ?
Il y a une différence entre lui donner 3 ans et lui donner 1 an ou lui donner 6 mois, c'est ça le problème.
Mais si demain tu veux, je te prends le cas de Jonathan Rowe, tout le monde a dit...
Après, c'est un cas particulier pour le coup, parce qu'il parle dans des circonstances exceptionnelles.
Non, mais au-delà, il allait partir quoi qu'il arrive.
Oui, c'est vrai.
Jonathan Rowe fait une très bonne prépa. Jonathan Rowe fait un très bel euro avec les Anglais, espoir. Il a une valeur marchande. Il a été acheté 15.
Mm-hmm. Il a vendu 19.
Exactement. Sauf que, il y a un souci de se renforcer sur ce poste-là. Et surtout de se renforcer défensivement. Parce que, pour acheter, des gros joueurs, il faut aussi sortir. Si tu regardes, j'aimerais bien, si t'as les chiffres, David, je parle sous ton contrôle, la balance entre ce que tu as sorti sur ce mercato et ce que tu as fait rentrer. Parce qu'il faut que l'Olympique de Marseille, sans droit TV notamment,
mais les droits TV, en fait, c'est pas énorme dans le budget, il faut qu'ils aient une cohérence.
C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une cohérence. Ils peuvent pas tout faire, l'Olympique de Marseille, aujourd'hui. Ils peuvent peut-être faire beaucoup plus que d'autres clubs de Ligue 1, mais ils peuvent pas tout faire non plus. Jonathan Rowe, est-ce que aujourd'hui, si tu as besoin de le sortir pour essayer d'aller chercher d'autres joueurs derrière, il voulait Ordonez à 30, 35, notamment Aguerre, Pavard, etc. Medina avec les 22 millions d'euros. Est-ce que tu te dis pas, bon, aujourd'hui, je vais faire Pachao pour essayer de monter en puissance avec le départ de Luis Enrique et Ahmed Traoré, et sortir Luis Enrique et Jonathan Rowe, 45 millions d'euros à eux deux, pour essayer de renforcer...
David, ça veut dire qu'au départ, il y a peut-être une erreur de casting sur Jonathan Rowe.
Ah, il se trompe.
Ou alors, à l'arrivée, il y a aussi une erreur de départ de Jonathan Rowe. Bon, on met Rabiot mis à part.
Mais je te l'ai dit, moi, il y a des erreurs.
Et c'est là que David peut-être fait l'éloge de la patience, peut-être. Qu'un jeune joueur comme lui, dont De Zerbi a vanté les mérites également. Il en parlait déjà dans le documentaire sur YouTube. On va compter sur lui. C'est un joueur à fort potentiel. Il est déjà
mais
plus là.
Pour moi, il y a des
c'est
erreurs.
Là, l'erreur,
mais l'erreur de stratégie, notamment sur celle de Mehdi Benatia.
Ils vont trop vite.
C'est de penser que des jeunes joueurs aujourd'hui à l'Olympique de Marseille peuvent avoir le temps dans ce contexte-là de s'épanouir. Oui, quand au bout de 6 mois.
Donc il y a une erreur au départ.
Mais oui, mais d'accord. Mais surtout, il y a une question.
Il y a beaucoup d'erreurs au départ.
Non, mais il y a une question qui m'intéresse.
Vitinha, je viens de l'expliquer
10 fois qu'il y a des erreurs. Mais la question qui m'intéresse le plus, c'est est-ce que l'Olympique de Marseille, dans le contexte marseillais, est capable de donner de la stabilité à un effectif.
Là,
on ne parle même pas de stabilité. On parle de 50% des joueurs achetés qui sont partis au bout d'un an.
Et ça va continuer.
Mais ça va continuer. En fait, le débat, il est passionnant parce qu'en fait, il y a plusieurs portes d'entrée. Parce qu'aujourd'hui, je vais le dire direct, la stabilité qu'on recherche dans un club de très haut niveau, ça l'a porté d'une portion, c'est-à-dire c'est l'élite, parce que aujourd'hui on est dans un modèle où le football, où notamment les joueurs, il y a tellement de flux, c'est très précaire. Mais pareil sous ton contrôle, David, Arsenal, quand Arteta arrive et qu'il y a Edu, ils ont été dans cette logique-là pour lancer le projet.
Ils ont même payé des joueurs
parce que l'Olympique de Marseille aujourd'hui, ils sont dans une idée où ils lancent un projet global. Et quand tu lances un projet global et qu'en même temps t'as une crise de croissance qui est nécessaire pour faire évoluer le projet, et ben automatiquement il y a du flux. Maintenant, ce qui va m'intéresser du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que la marge de progression, c'est de tendre vers cette stabilité. Par exemple, pour moi, c'est too much qu'en hiver, après six mois après, il y a des joueurs qui partent. Pour moi, ça doit être ça l'objectif du côté de l'Olympique de Marseille, limiter ce flux au cours du mercato hivernal. Mais pourquoi
tu verras que ce sera pas le cas.
Mais pourquoi l'Olympique de Marseille a recruté Roberto De Zerbi? Et pour moi, c'est très passionnant, c'est un thème qui est fondamental. Évidemment que Roberto De Zerbi, on le connaît sur sa capacité à normalement bien faire jouer ses équipes,
les faire progresser.
Mais pourquoi, c'est quoi la finalité? C'est de reproduire ce qu'il a fait à Brighton où Caicedo, Cucurella,
McAllister,
c'est des valeurs marchandes qui ont explosé.
Attendez, les gars, il faut que Joris, Joris qui est là depuis.
C'est un débat très intéressant.
Mais oui, mais Joris nous rejoint.
Bien sûr, Joris.
Salut Joris.
Bonsoir la team.
Bienvenue.
Il faut dire la team.
Alors Joris, écoutez le débat justement que tout le monde trouve passionnant autour de la table.
Oui.
Quel est ton regard là-dessus? D'abord un mot sur le principe, la notion de stabilité ou instabilité. Est-ce qu'il y a une fatalité à Marseille? Marseille sera-t-il toujours instable? Walid pense que oui.
Alors sur l'histoire de la stabilité, si j'ai un peu de temps pour développer,
vas-y.
Important et c'est très passionnant. Sur ce qu'on a dit sur la saison dernière, il fallait garder De Zerbi et les cadres. Dans les cadres, le seul qui est parti, malheureusement, on en a assez parlé pendant 3 semaines, c'est Rabiot. Rongi en fin de cycle. Et sinon, après, sur l'ensemble du 11, on sort Merlin et Luis Enrique, qui, s'ils étaient là ou non, c'était pas bien grave, je trouve.
Enrique, je trouve dur, mais Merlin, oui.
Oui, non, mais Luis Enrique, on est arrivé un peu au bout, il y avait de l'argent à prendre, donc ça pouvait se comprendre qu'il pouvait partir. Donc du coup, on a gardé quand même les autres joueurs du 11, donc quasiment entre 6 et 7 joueurs, plus l'entraîneur. Le recrutement qui est fait à côté, Alors, des problèmes défensifs, tout le monde l'avait dit, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, j'ai eu Walid en début de saison, enfin, en début de mercato du moins, on parlait déjà de Haguerd avant qu'on signe Medina, tout le monde disait que c'est une super bonne idée, il fallait acheter entre au moins 5 ou 6 joueurs pour faire la Ligue des Champions. On a sorti des remplaçants, on a sorti des cadres, et on les a remplacés par les joueurs que vous avez parlé depuis tout à l'heure, qu'on a recrutés. Ça fait certes 14 nouvelles arrivées, ou 12 nouvelles arrivées, pardon, pour 14 départs. Ça peut sembler être une instabilité sur le fait du mouvement qui est important, mais ce sont des mouvements qui ont amélioré l'effectif et qui ont, dans le groupe et dans le projet de Zerbi, une certaine continuité, puisqu'il a gardé ses cadres, il a gardé son effectif et on l'a amélioré. Ensuite, moi je suis d'accord avec tout le monde, hein. J'entends parler, l'air Longoria, il est malade de transfert, il ne peut pas se retenir. Il y a un média que je suis, qui suit l'OM, qui a l'air sérieux, qui s'appelle La Minute OM, et ils ont fait un petit comparatif avec les autres clubs, parce qu'il faut regarder ce que font les autres aussi sur
la période. Ah bah, je voulais ces chiffres-là, moi.
Eh ben, par exemple, le Paris Saint-Germain, c'est 230 mouvements sur les 5 ans. OK. Lyon, c'est 239, Lille, 164, et l'OM, 172. Mais bon, malheureusement, je vois pas passer des grands papiers dans l'équipe, ou des grands sommaires en long, en large, en travers, en nous expliquant que le travail du Paris Saint-Germain, ben c'est pas terrible, il renouvelle beaucoup. Que Lille, ben non, c'est pas terrible non plus. Que Lyon, ben oui.
Mais regarde la valeur créée par Lille.
Attends, vas-y.
Regarde la valeur créée par Lille, parce qu'en fait, le problème de la stabilité, c'est que la question de la stabilité, c'est que le problème, il a été mal posé. C'est que là, en fait, ton instabilité, c'est pas forcément un choix, c'est une obligation. Pourquoi ? C'est une obligation parce que tu n'arrives pas à l'Olympique de Marseille à valoriser tes talents. Moi, j'avais créé une catégorie qui était les recrues trading. C'était des recrues qui
que tu achetais pour faire une plus-value.
Exactement, et que tu revendais avant 25 ans. Vous savez combien il y a de recrues trading sur l'air Longoria qui ont été revendues plus de 50% du prix d'achat. Deux, Bamba Dieng et Luis Enrique. Tout le reste ont été revendus soit à perte, soit avec une plus-value minime. Et une plus-value de 50%, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais c'est juste faire 5 millions sur une recrue à 10 millions, donc c'est pas énorme.
Joris, je laisse finir ton raisonnement. Joris.
Je suis d'accord avec ça aussi. Mais après, voilà, donc ça c'est, je parle des mouvements en général pour les autres clubs. Après, il se rajoute quelque chose à l'Olympique de Marseille. Moi, je veux bien entendre, hein, l'histoire de, on n'a pas gardé Wally, on n'a pas gardé Bamba Dieng, on n'a pas gardé qui vous voulez. Mais, il faut voir aussi comment jouent ces joueurs. Moi, Jonathan Rowe, peut-être très bon joueur, pas de problème. Mais si de la saison dernière, Longoria, De Zerbi ne le fait pas jouer, c'est que peut-être il y a quelque chose. Si ces joueurs n'arrivent pas à s'acclimater parce que la pression est compliquée, tout est dur, l'attente est beaucoup plus forte et que le club ne veut pas se sentir pénalisé parce que peut-être ils n'arriveront pas à les revendre, eh ben, vaut mieux les vendre. Quitte, même si on ne fait pas de plus-value, et je l'entends aussi, hein. Mais si ça convient à tout le monde. Ils ont vu l'actionnaire dans l'été, tous les trois, ils y sont allés, ils l'ont rencontré, ils lui ont dit ce qu'ils comptaient faire. L'actionnaire a dit, c'est bon. Si à ma courte, ça lui convient de manger 20, 30 millions d'euros par an, qui voit que l'équipe avance, là, l'équipe, enfin, c'est son argent. S'il trouve que ça ne lui convient pas, il va dire, non, on arrête là, on n'achète pas Pavard, on ne prend pas Haguerd, vous débrouillez avec Cornelius et Kondogbia dans l'axe, ça ira bien comme ça. Mais qui peut dire aujourd'hui, alors après, on verra comment on va faire jouer De Zerbi, hein, c'est pas la question, mais qui peut dire aujourd'hui là, qu'on ait fait un mauvais mercato et que ce semblant d'instabilité qui peut paraître une instabilité, pardon,
oui. Oui, Joris.
Est négative et Joris, néfaste pour le club.
C'était pas tant le sujet que voulait mettre en avant David. Hein. Lui, il voulait insister sur finalement la stratégie de plus-value manquée par Longoria en réalité. Quoi.
Alors que c'est un scout. Sur la base, c'est son ADN.
Sa stratégie de transfert à haute fréquence, comme tu l'as dit
exactement,
tout à l'heure,
c'est du trading,
c'est pas pertinent. Il est plutôt neutre même.
Après, il est neutre.
Après, il est pas seul responsable, Pablo Longoria, là-dessus. Il y a le coach, il y a ce qui se passe sur le terrain, la mise en valeur.
C'est très complexe. Joris, merci d'être venu. On t'a laissé la parole. Il y a Madou qui va arriver aussi au 32-16 en finale là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'appels.
Exactement.
Sur ce sujet qu'on fait ce soir dans Génération After avec David Elton et Walid. Walid, je sais que tu veux encore la parole. Reste avec nous. La suite dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec David Guzman, Elton Mokolo et Walid Acharchour, on parle stabilité, instabilité à Marseille, est-ce propre à l'OM ? Pourquoi autant de mouvements, même si Joris a fait une intervention brillante en rappelant que d'autres clubs français ont fait énormément sur les mercato depuis 5 ans. Certes, mais ce n'était pas le propos de David, encore une fois,
c'est
je le rappelle.
Ce que disait David,
en revanche, c'est qu'il juge le bilan financier de Pablo Longoria.
Moi, c'est la valorisation.
Tout simplement.
Moi, je comprends le prix de votre fréquence.
Très peu de gains ou un bilan neutre, même négatif, sur 10 millions d'euros.
Mais la porte couvre, David, là-dessus, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, finalement, il limite la casse. sur les profils qu'ils ont achetés, alors qu'ils devaient faire, alors qu'ils devaient faire une plus-value, et ça c'est un problème pour l'Olympique de Marseille. Mais encore une fois, partant de ton postulat qui est factuel, qu'on peut pas aujourd'hui contrecarrer, c'est pourquoi est-ce que c'est Longoria et Benatia qui se trompent, ou est-ce que c'est le contexte marseillais qui, comment dire,
ils peuvent recruter des joueurs en fonction du contexte marseillais aussi. Wally, tu m'écoutes pas. Ils peuvent aussi faire des choix psychologiques.
Ouais.
De joueurs qui vont répondre favorablement au contexte Benatia marseillais.
Il n'avait pas le temps.
C'est possible.
Mais c'est des erreurs de Benatia.
Vitinha, c'est la caricature.
Donc c'est des erreurs de Benatia et de Longoria. Mais quand on cite 2-3 exemples de mecs qui, quand ils sont arrivés à Marseille, ont été en grande difficulté et qui finalement, en dehors de Marseille, ont été plutôt bons,
erreur.
Mais Illiman Ndiaye, est-ce que c'est une erreur de ramener Illiman Ndiaye quand tu vois aujourd'hui sa valeur marchande à Everton?
C'est une erreur de pas valoriser.
Mais quand Illiman Ndiaye arrive à l'Olympique de Marseille, on est tous emballés. Il a coûté quoi? 18 millions d'euros.
Il était même emballé.
Non mais il arrive là-bas.
Mais nous on est emballés sans connaître le joueur aussi.
Non, mais est-ce que je peux terminer une phrase, Nico? Illiman Ndiaye, quand il arrive à l'Olympique de Marseille, il est par le contexte marseillais, il fait du suracisme, non mais mentalement, etc. Donc encore une fois, on va pas tous citer les exemples. Ismaïl Assar aujourd'hui, quand il est à l'Olympique de Marseille, hormis son match contre Villarreal où il a été très très bon en Europa League, ça a été une catastrophe. Il va à Crystal Palace, chaque fois que j'allume la télé à Crystal Palace, le mec il est extraordinaire. Après, avec Mateta.
Qu'est-ce que tu veux dire? Moi je vais donner deux exemples européens.
Ok, donc Naples. En fait, j'ai rien le droit de dire, Nico.
Mais tu l'as déjà dit.
Mais non, j'ai pas cité les exemples.
Le critère du contexte.
J'ai dit juste qu'aujourd'hui, est-ce que tu dois laisser du temps à Ismaïl Assar, à Illiman Ndiaye, à tous ces mecs-là?
Mais ça, c'est une étape très importante. Est-ce qu'il ne faut pas les recruter, tout simplement?
Tu recrutes quel type de joueur à l'OM?
Il y a des erreurs, évidemment, j'ai pas le droit.
Mais j'ai dit qu'il y a que des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs, je suis en train de te le dire. J'essaye de dire à l'Olympique de Marseille, comment tu fais? Est-ce que tu as le luxe de les laisser 2 ans, 3 ans?
On est d'accord.
Est-ce que c'est possible?
David.
Walid. Il y a 2 clubs à qui on compare régulièrement. Alors ils se sont même comparés, l'Olympique de Marseille, le premier c'est Naples, qui a réussi dans un contexte bouillonnant à valoriser des talents, notamment Kvara, il y a eu Jorginho, il y a eu Alan, il y a eu Osimhen, ils sont plus ou moins en plus, il y avait le transfert Gérard Lopez, il y avait eu Cavani, il y a eu Koulibaly, donc il y a eu énormément de joueurs valorisés. Et Dortmund, on peut pas dire minimiser la pression populaire également à Dortmund avec le mur jaune, qui tous les ans arrive à faire un transfert x4, x5, x6 avec Bellingham, avec Haaland, et encore il y avait une clause, il y avait un
prix limité, les Bellingham,
avec Gittens, avec Sancho. Donc en fait, si tu veux, c'est juste qu'ils avaient un tout petit peu plus, parce que c'est vrai que à Naples il y a quand même pas mal de turnover, mais ils se sont donné aussi quelque part en fait le temps. Donc même dans un contexte passionné, c'est possible
Cette stabilité.
Amadou,
je pense que c'est un problème pour l'Olympique de Marseille.
Bonsoir Amadou.
Bonsoir les gars.
Vous allez bien, Amadou?
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout ça, ce qu'on dit là, il y a beaucoup de choses, évidemment. Le turnover, l'instabilité marseillaise. Est-ce que c'est une fatalité pour toi?
Je vais commencer déjà par féliciter David pour son extraordinaire démonstration. Il y a 5 ans, Longoria, on pouvait comprendre, en tant que supporter de l'OM, la créativité qu'il a dû mettre en place pour pouvoir faire un effectif qui était, on va dire, qui pouvait tenir la route. On savait qu'à l'époque, les moyens étaient limités, etc. Donc, on se dit, bon, il fait beaucoup de mouvements, il fait beaucoup de prêts, etc. C'est normal, on part de tellement loin qu'il faut bien trouver des moyens pour recruter des joueurs. Ça, c'était il y a 5 ans. Depuis, j'ai l'impression que ce club, même malgré les discours qui veulent nous rassurer, qu'il faille de la stabilité, etc., ça fait 2 ans qu'on l'entend, j'ai l'impression que la direction de ce club en veut à notre cuir chevelu, à notre chevelure, tellement ils veulent qu'on se les arrache, les cheveux, chaque été. Chaque été, on y a droit. Donc on a droit à des perpétuels mouvements. Pour une fois, la saison dernière, on avait une équipe dont on se dit, allez, là, c'est bon, on a quelque chose, on a une base. Il suffit peut-être de l'alimenter de 4, allez, 3, 4 joueurs.
Là, ton équipe, elle est meilleure. Oui, mais là, ton équipe, elle est meilleure. Cette saison-là, tu as double compétition, évidemment, en Ligue des Champions, Ligue 1, c'est compliqué.
Amadou, rassure-moi, quand tu as vu l'effectif de l'an dernier, tu ne disais pas qu'il n'y avait que 4 joueurs à faire, quand même.
Peut-être pas, mais.
Bon, pour moi, il y en a un ou deux en trop, peut-être. Un Timothy Weah. Il y a des joueurs, pour moi, il y aura encore des erreurs cette saison. Et ça, c'est problématique. Et je rejoins Nico. Faut plus faire d'erreurs. En tout cas, faut minimiser les erreurs à l'Olympique de Marseille. Mais bon, quand t'as deux compétitions et quand t'as vu tous les problèmes structurels dans l'effectif de l'Olympique de Marseille l'an dernier,
en fait, c'est un problème
qui doit renforcer.
Le problème, Amadou. Attends, Amadou, parce que. Fini, Amadou, vas-y.
Je termine parce que autant sur les premières saisons du mandat Longoria, on se dit bon, il fait peut-être qu'il fait du trading parce que lui s'en défendait. Bah ça s'est vérifié et David l'a bien démontré. Il n'a gagne pas d'argent, donc j'ai pas l'impression, à moins qu'il soit un piètre gestionnaire, que le gars était là à faire des transferts pour gagner de l'argent. Donc si c'est pas ça la raison, donc l'autre raison c'est d'améliorer l'équipe année après année. Bon, je dis pas qu'elle s'améliore pas l'équipe. Elle s'améliore, on va pas se cacher, elle s'améliore. Mais malgré ça, on ne gagne pas de titre. On ne se stabilise pas au sommet de la Ligue 1. On s'est pas stabilisé au sommet de la Ligue 1. On a fait combien de podiums depuis? On n'en a pas fait des temps que ça, de la Champions League.
On t'a fait des podiums quand même.
C'est le troisième, là, podium, hein, quand même, je crois.
Saison accident, huitième, sinon c'est podium.
T'as Tudor, Sampaoli, De Zerbi, quand même, sur les quatre dernières années, quand même, en podium, non?
Je suis d'accord.
Ouais, mais voilà. Mais là, il est là le problème, c'est que, à chaque été, on s'invente un mélodrame. T'inquiète, si c'est pas le coach, c'est le
meilleur joueur. Ah oui, c'est un autre débat, c'est un gros
problème. C'est encore, c'est encore autre chose.
Ça c'est un autre problème, ah bah, mais ça participe à ça.
Parce que je pense que depuis deux semaines, on le dit depuis le.
La stabilité de l'effectif, il l'a collé quand même. Sur le coach.
Non, mais Amadou, il a dit quelque chose qui pour moi est très important. Amadou, il a dit quelque chose qui pour moi est très important parce que déjà, c'est une question de timing. À l'été 2022 et 2024, l'Olympique de Marseille fait 11 arrivées. On n'en parle pas parce qu'il gagne des matchs. Non, on en parle parce qu'il perd des matchs. Et le deuxième point, c'est que Amadou, pour moi, c'est fondamental. L'Olympique de Marseille est un club qui a une crise d'identité parce que t'es tiraillé entre le fait de vouloir faire du trading et de gagner des titres. L'Olympique de Marseille ne sait pas où il en est.
Très bien, j'aime beaucoup cette conclusion-là.
Merci beaucoup.
C'est terminé. Merci David d'avoir amené le sujet sur la table. Merci Amadou d'y avoir participé. Dans un instant,
merci à Maurice.
Merci à Joris aussi.
Joris, très bon aussi, tu as raison.
Merci à Nico.
Merci à toi, Walid aussi, pour tout ce que tu es. Mais vraiment, tout ce
merci,
que tu
merci.
Es.
Merci pour cette
Tiens, justement, l'Algérie s'est fait égaliser par le Botswana partout.
Ça m'emmerde un peu plus.
Ça t'emmerde un tout petit peu. L'Allemagne est menée 1-0 par la Slovaquie.
Oh là là,
avec un but un recrue de l'Atlético de Madrid. Et puis vous aurez tous les résultats zone Europe, zone Afrique avec monsieur Gilbert Bribois.
J'ai vu qu'il y avait un gros débat sur légende Mbappé à 22h. Est-ce qu'on n'écoute pas Génération After dans l'After Foot
MJDM.
La légende que peut devenir Mbappé en Coupe du Monde.
Moi, je serai attentif à Kevin Diaz.
On aura quand même une dédicace ou pas
tu veux dire dans l'émission d'espionnage industriel.
Allez, l'after arrive, merci David Elton, Walid, Gilbert pour la suite, l'after jusqu'à minuit comme tous les soirs sur RMC.